Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, nous allons commencer. J'avais terminé lors de la dernière leçon d'évoquer les façons dont le naturalisme se met en image ou met en image le caractère distinctif de l'intériorité humaine. Or, l'émergence du naturalisme dans la peinture du XVe siècle se donne à voir non seulement par la manière tout à fait inédite dont la singularité des humains est figurée chez des peintres comme Campin ou comme Van Eyck, mais aussi par une façon nouvelle de figurer les contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui acquiert son autonomie. De même que le portrait s'affirme à cette époque comme un genre indépendant qui rompt avec les conventions du portrait prototypique hérité de l'Antiquité pour s'attacher à rendre compte de façon minutieuse de la singularité des individus et des individus qui sont à présent dignes d'être figurés pour eux-mêmes. De même, l'autonomisation et la sécularisation de l'espace conduisent à la naissance d'un autre genre, le paysage, qui s'affirmera comme l'autre dimension essentielle de la figuration naturaliste. Là aussi, c'est une invention de l'Europe du Nord. À tout le moins, c'est là que le genre s'est systématisé. Certes, on s'accorde à voir dans la fameuse fresque de Lorenzetti à Sienne, qui est dans le palais municipal de Sienne, les effets du bon gouvernement, fresque qui a été faite aux environs de 1340, l'un des premiers paysages européens. Et il est vrai que c'est une peinture civique et allégorique donnant à voir des environnements urbains et des environnements champêtres et les activités qui s'y déroulent indépendamment de toute référence à l'histoire sacrée ou aux images du culte. C'est des images qui sont évidemment très connues. Ça, c'est les effets du bon gouvernement à la ville. Et ça, ce sont les effets, un détail des effets du bon gouvernement à la campagne. Mais ces paysages, comme deux autres paysages de Lorenzetti moins connus, l'un intitulé « Château au bord du lac » et l'autre « Ville sur la mer », sont en fait des coups d'éclat d'un pionnier qui n'ont eu aucune postérité pendant presque un siècle. Comme l'écrit Otto Pecht dans son livre sur le paysage dans l'art italien, je le cite, « Ce n'est pas l'Italie qui recueillit les fruits de ses prouesses exceptionnelles qui, au prix d'efforts acharnés, ouvrir de nouvelles dimensions au monde de l'expérience visuelle. Les peintres italiens du Quattrocento tiraient rarement parti de la découverte du monde animal et végétal, traitant les immenses ressources de ce nouveau matériau comme une curiosité servant à rehausser l'ornementation et les éléments secondaires. » En fait, Pecht fait ici référence à deux choses. D'une part, au recueil de modèles de lettres, de personnages et de petites vignettes amusantes, qu'on a d'ailleurs appelées des drôleries, à l'usage des peintres d'enluminure et qui figurent avec une extraordinaire précision des plantes et des oiseaux. Et ça, c'est une spécialité caractéristique de la Lombardie dans la deuxième moitié du Trecento et dont la personnalité la plus connue est sans doute Giovannino de Grossi. En voilà un bon exemple, un léopard dont il est à peine besoin de souligner à quel point il est réaliste à la fois dans la figuration des détails, mais aussi dans la figuration du mouvement. Deuxième trait auquel fait référence Pecht, ce sont ce qu'on appelle des guides de santé qu'on appelle des taquinum sanitatis. Ils étaient très répandus aussi dans l'Italie du Nord. Ce sont des textes qui remontent à un traité arabe du XIe siècle, traduit au XIIIe siècle et développé donc au XIVe siècle au nord de l'Italie en un livre illustré que l'on tenait comme une sorte d'almanach de santé domestique. Et les peintres y montrent toutes sortes de fruits, de fleurs, de légumes et bien entendu de plantes médicinales. Et il caractérise les animaux domestiques, les vêtements saisonniers, les résidences d'hiver et d'été, les effets des boissons, des aliments, de l'eau du puits, des vins, etc. Des 5 exemplaires qui subsistent de Taquinum sanitatis, tous ont vu le jour dans des ateliers de Lombardie et de Vénétie. L'un des plus fameux était, là encore, celui de Giovannino de Grassi, dont un taquinum est d'ailleurs conservé à Paris, à la Bibliothèque nationale. Celui dont je vous montre une illustration ici est d'un peintre inconnu. Il est d'avant 1400 et il figure l'automne et les vendanges. L'idée de ces traités était de représenter l'objet naturel qu'il mentionnait, non pas comme dans une planche botanique, et on en trouve on trouve des herbiers fort réalistes dès, en réalité, le VIe siècle. Par exemple, le Dioscorique de Vienne, qui date de 512. Mais de représenter ces objets naturels en situation, dans leur environnement naturel. D'où l'extraordinaire nouveauté de ce genre de peinture de paysage et son réalisme qui, dans le cas présent, en fait une illustration fidèle de la vie champêtre en Italie du Nord à la fin du XIVe siècle. Et pourtant, en dépit de tous ces antécédents, l'Italie du Nord ne s'est pas engagée dans la voie paysagère. Je reprends Otto Pecht dans son livre sur le paysage dans l'art italien. Je le cite, « Ce fut dans le Nord, en France, et surtout dans les Flandres et aux Pays-Bas, que les peintres assimilèrent la leçon implicite du naturalisme descriptif et différenciateur découvert par les artistes de l'Italie septentrionale à l'époque du Trecento. Et ce sont eux également qui produisirent presque immédiatement un style naturaliste homogène. Dans le Nord, la découverte de la nature ne pouvait qu'aboutir à la découverte de la peinture de paysage. Qu'il faille mettre, conclut-il, cette réussite au crédit de l'art du Nord est un fait indiscutable qui fait partout l'unanimité. » Alors on peut se demander pourquoi les innovations naturalistes du Trecento, dans la figuration des plantes et des animaux, et qui est tellement évidente lorsque l'on regarde les taquina et les recueils de motifs, pourquoi ces innovations naturalistes n'ont pas débouché en Italie sur une représentation paysagère avant qu'elle ne soit inventée dans les pays du Nord. J'y reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais je pense qu'on peut dire tout de suite qu'il faut sans doute attribuer ce retard à la tradition de la grande peinture religieuse, dont le poids et le prestige rendaient les figurations profanes anecdotiques, ancillaires, et pour tout dire, peu dignes d'un grand artiste. De sorte que la représentation du paysage s'est glissée dans des productions secondaires et moins estimées, comme les traités médicaux ou les livres d'heures des enlumineurs. Comme Alain Roger l'avance dans son court traité du paysage, l'invention du paysage occidental supposait la réunion de deux conditions. D'abord, la sécularisation ou la laïcisation des éléments naturels, c'est-à-dire leur soustraction aux fins d'édification et ou même de signification de la scène religieuse. Il devait perdre ces éléments naturels, toute connexion immédiate avec l'espace sacré, s'éloigner de cet espace sacré afin, en quelque sorte, de mener une existence indépendante. Et ce sera le rôle absolument décisif de la perspective. Pas nécessairement, d'ailleurs, la perspective telle qu'elle a été définie par Alberti, mais toutes les sortes de perspectives, c'est-à-dire toutes les techniques de mise en profondeur de l'image, qui étaient très nombreuses, d'ailleurs, enfin, il y en avait en tout cas plusieurs sortes, avant la perspective monofocale albertienne. En particulier, la perspective dite à la française, qui est la perspective que Fouquet emploie dans ses enluminures et qui permet de dépeindre de façon saisissante, en tout cas, des mouvements de foule. C'est une perspective qui est fondée sur deux lignes de fuite. Donc la perspective, elle donne de la profondeur à la scène, elle fait passer à l'arrière-plan les éléments de l'environnement, elle les détache de l'action qui se déroule au premier plan, et de ce fait, elle laïcise, évidemment, ces éléments de l'environnement. Détacher des icônes centrales, les arbres, les plantes, les animaux, les maisons, les chemins, les nuages, doivent dès lors constituer une totalité homogène, se présenter comme une synthèse plausible, parfois au détriment d'ailleurs d'une liaison vraisemblable avec la scène sacrée du premier plan, comme on l'a vu lors de la dernière saison avec la nativité de Campin, où le paysage paraît complètement dissocié de ce qui se passe au premier plan. Ce double mouvement, il s'amorce chez les miniaturistes français du dernier tiers du XIVe siècle, notamment l'atelier de Jacquemart de Hesdin. Dans ces miniatures, l'espace commence à s'approfondir, les plans se multiplient, les éléments les plus éloignés perdent la netteté de leurs détails, correspondant donc à la vision, aux choses qui sont données telles qu'elles se voient. Bref, la figuration du monde phénoménal commence à s'organiser autour de la manière selon laquelle il est perçu par un sujet. Mais un sujet extérieur à l'image et qui, quelquefois, peut-être, afin de mieux souligner cette extériorité, élimine tout humain du paysage. C'est le cas, très exceptionnel d'ailleurs, de cette enluminure illustrant des poèmes de Guillaume de Machaut, qui a la réputation d'être le premier paysage autonome de l'art occidental moderne. Comme vous voyez, il est du milieu du XIVe siècle. Alors, les frères Limbourg, le maître de Boussicault, dont j'ai longuement parlé lors des leçons précédentes, achèvent cette laïcisation, et le dernier stade de l'autonomisation étant atteint avec le dispositif de la fenêtre flamande, qui isole le paysage, qui le convertit en un tableau, dans un tableau, comme dans la Vierge à l'écran d'osier de Campin, dont je remontre ici la fenêtre. Pour finir avec ce qui pour moi est une étape décisive, c'est bien évidemment la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck, dans laquelle la quasi-totalité de l'arrière-plan est occupée par un paysage et s'intègre en outre harmonieusement à la scène de l'histoire sainte, tout en conservant son indépendance thématique. Dès lors, finalement, il ne reste plus qu'à dilater la fenêtre à la dimension du tableau afin d'obtenir le paysage moderne, ainsi que le feront, par exemple, Gertgen, Todd, St. John's, et qu'on peut appeler en français, puisque c'est en flamand, Gérard de Saint-Jean, et Patinir, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Ouais, par exemple, ce tableau de St. John's, c'est Saint-Jean-Baptiste, donc dans le désert. On voit que si Saint-Jean-Baptiste est bien au centre du tableau, on a le sentiment que le vrai sujet, c'est ici le paysage en tant que tel, et non le saint qui apparaît un peu comme une pièce rapportée. Autre grand classique du paysage occupant la totalité du tableau, c'est l'extase de Marie-Magdeleine de Patinir. La scène sacrée a ici presque disparu, dans la mesure où Marie-Madeleine est à peu près indiscernable et le paysage emplit le tableau, même si son peu de vraisemblance géomorphologique, disons, contribue à le déréaliser. Bon, Marie-Madeleine, elle est là-haut, vous voyez, c'est comme une espèce de tache. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit véritablement au cœur de la représentation. C'est vraiment le paysage là qui occupe la première place. Alors, évidemment, il reste à savoir si cette émergence dans l'Europe du Nord, au XVe siècle, de la figuration des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique devenu homogène est une chose entièrement nouvelle. En d'autres termes, assiste-t-on ici à une véritable naissance du paysage, ou bien à la reprise d'une thématique déjà présente dans l'Antiquité, voire à l'invention tardive par l'Europe d'un genre pictural qui aurait déjà été inventé bien plus tôt et à l'insu de l'Europe, en Orient. Sans m'attarder trop longuement sur cette dernière hypothèse, je voudrais néanmoins dire deux mots à son propos avant de revenir plus en détail à la question du paysage antique. Dans son livre « Les raisons du paysage », Augustin Berck a proposé de retenir quatre critères permettant de reconnaître l'existence de ce qu'il appelle des sociétés paysagères. Premièrement, l'existence de représentations linguistiques, c'est-à-dire de mots pour dire « paysage ». Deuxièmement, l'existence de représentations littéraires, orales ou écrites, célébrant les beautés du paysage. Troisièmement, l'existence de représentations picturales, dont le thème est le paysage. Et enfin, l'existence de représentations, ce qu'il appelle des représentations jardinières, traduisant une appréciation esthétique de la nature. Si l'on s'en tient à ces critères, le paysage aurait donc été inventé deux fois, et de façon indépendante, en Chine ancienne, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne d'abord, d'où il se serait ensuite diffusé dans les pays voisins, en Corée, au Japon, au Vietnam, et ensuite, et bien plus tard, au XVe siècle, en Europe du Nord. Pour faire valoir cette hypothèse, on peut retenir qu'en effet, la langue chinoise possède un mot et même deux pour désigner le paysage. Le plus connu, c'est shanshui, qui est l'accolement du terme pour montagne et du terme pour eau. Le deuxième, c'est fengjing, qui est l'accolement de vent et de scène avec une forte connotation de luminosité. Fengjing, d'ailleurs, évoque plutôt l'ambiance du paysage, ça. Dimension subjective, tandis que shanshui évoque plutôt les motifs du paysage. Et du reste, comme dans les langues européennes, ces deux termes peuvent désigner aussi bien la chose, le paysage tel qu'il est perçu par un spectateur, que la représentation de la chose, en l'occurrence sur un rouleau. Les représentations picturales, évidemment, existent aussi. Il y a à peine besoin de souligner l'importance, l'abondance et le haut degré de réalisme de la peinture de paysage en Chine. Certaines de ces représentations, comme la nymphe de la rivière L'eau, remontent au IVe siècle. Il faut noter aussi que certaines techniques de la peinture de paysage occidentale sont préfigurées par la peinture chinoise, notamment la perspective linéaire. C'est une perspective qui est légèrement différente de la perspective européenne puisqu'elle a un horizon qui est légèrement décalé vers le haut. Et de même que la technique pour donner de la profondeur et qui consiste à échelonner les tâches dont la clarté va augmenter en fonction de l'éloignement, ce qui permet de produire une perspective atmosphérique telle que celle qui a été inventée beaucoup plus tardivement par la peinture occidentale au XVe siècle, avec la profondeur des trois plans de couleurs qui sont l'ocre, le vert et le bleu, et qui donnent donc de la profondeur par le chromatisme et non plus par la construction de la perspective. On a aussi des représentations littéraires, ça va de soi. La poésie paysagère, d'ailleurs même en Chine, a précédé la peinture de paysage. Et les termes équivalents à paysage font donc référence à une expérience sensible, subjective, qui va bien au-delà de l'appréhension visuelle d'un espace et de sa représentation picturale. Il n'est pas rare au demeurant, comme vous le savez, que les peintres calligraphie sur leur rouleau des commentaires plus ou moins poétiques appropriés à ce qu'ils ont figuré. Surtout, les écrits sur le paysage, tant les manuels de peinture que les réflexions philosophiques sur la peinture, abondent. Des textes qui décrivent la bonne manière de contempler un site et des textes qui décrivent la bonne manière de le figurer. Enfin, dernier trait, la Chine a bien développé un art des jardins, il est très connu. Le Japon l'a poussé à un degré de raffinement peu commun. Au Japon en particulier, l'art des jardins possède une très évidente dimension paysagère. Il s'agit par exemple de cette technique qu'on appelle « emprunter le paysage », c'est-à-dire qui consiste à se donner comme fond une montagne voisine en dissimulant le second plan, donc entre le jardin et la montagne, de façon à donner l'illusion que le jardin s'étend jusqu'à la montagne. C'est donc la capture d'un arrière-plan et évidemment une façon de paysager un jardin. C'est comme si la montagne attirée dans la vue du jardin était empruntée par le maître du jardin, d'où le terme shakai qui désigne cet emprunt. Il est intéressant à ce propos d'ailleurs de noter que si Marco Polo s'extasie devant les jardins qu'il rencontre en Asie, notamment le jardin du Grand Khan, il ne fait absolument aucune mention de la peinture de paysage qui était pourtant florissante sous la dynastie Yuan. Or, à l'époque où il visite la Chine, la peinture de paysage n'était pas née en Europe. De sorte que Marco Polo, littéralement, est aveugle à la peinture de paysage chinoise. Il ne peut voir que ce qu'il a appris à reconnaître. Donc les jardins, pas de problème. Il y a l'hortus conclusus qui est classique au Moyen Âge. Mais la peinture de paysage, il ne la voit pas. Elle n'existe pas pour lui. Cela dit, il faut prendre garde que des images dépeignant des choses semblables en apparence ne renvoient pas nécessairement aux mêmes propriétés invisibles ou ontologiques de la réalité. Classer ces images, c'est un exercice dont beaucoup sont friands, classer ces images selon leurs seules caractéristiques formelles, le genre, le support, la facture, le sujet, etc., ne révèle rien des circonstances dans lesquelles et pour lesquelles on les a faites, ces images, ni des conventions figuratives auxquelles obéissaient leurs producteurs et que leurs destinataires savaient reconnaître. Un paysage, un masque, un portrait n'a pas de signification universelle et n'exerce pas les mêmes effets selon les lieux et selon les époques. Donc, sans anticiper sur le cours de l'année prochaine, dans lequel je traiterai plus complètement la question du paysage chinois, je voudrais simplement dire que celui-ci possède des finalités qui sont complètement différentes de celles du paysage inventé à la Renaissance, de sorte qu'il est presque illégitime d'employer le même terme pour désigner les deux genres. L'idéal de la peinture chinoise répond tout à fait aux objectifs figuratifs de l'analogisme. Il s'agit de recréer un microcosme total où soit visible l'action unificatrice dont on crédite les souffles vitaux dans le macrocosme. Autrement dit, il s'agit de figurer une réplique du cosmos à une autre échelle. Le vide joue un rôle central dans cette opération, d'abord de façon littérale par la surface importante dévolue à l'espace non peint dans les représentations de paysages, espace non peint qui joue le rôle d'un espace, d'une sorte de milieu interstitiel parcouru par les souffles reliant le monde visible au monde invisible, mais aussi dans l'espace peint, par ce qu'on pourrait appeler la fonction vide dévolue au nuage, comme un médiateur entre la montagne, dont il peut évoquer la forme, et l'eau, dont il est évidemment formé. Donc la peinture de paysage met en lumière cette caractéristique de l'analogisme qui est l'ambition de donner à voir le réseau des correspondances entre les humains et le monde, entre l'homme et l'univers. Peindre la montagne et l'eau, en effet, c'est faire le portrait des sentiments et des dispositions qui animent les humains. Les traits principaux du milieu physique entrant en résonance avec le milieu intérieur du peintre. Le ki, le souffle cosmique, court à travers le paysage comme il court à travers le corps humain, et le pinceau du peintre, en quelque sorte, le saisit pour s'animer de l'énergie qui donne son dynamisme à l'environnement. Comme le dit Confucius, l'homme de cœur s'enchante de la montagne, l'homme d'esprit jouit de l'eau. Donc aux deux expressions de la réalité physique sélectionnées pour rendre emblématique la peinture de paysage chinoise, correspondent deux dispositions humaines. Dépeindre la montagne et l'eau, c'est figurer l'affinité entre le milieu de vie des humains et leur milieu intérieur, c'est à nouveau faire entrer en résonance le macrocosme et le microcosme. Par contraste, la peinture de paysage européenne, née d'un mouvement de sécularisation des objets de l'environnement, de l'environnement physique, qui désormais dépeint pour lui-même et non plus pour sa fonction, les objets qu'il contient, pour leur fonction symbolique, dans des images à finalité religieuse. En utilisant la perspective linéaire, le peintre représente les choses ordonnées dans un espace rationnel et telles qu'elles se présentent sous son regard et sous celui du spectateur, à partir d'une position pleinement extérieure au monde figuré. Donc, avec ce procédé, la nature est mise à distance et acquiert une existence intrinsèque. Elle devient une substance décrite avec minutie et avec exactitude en elle-même et pour elle-même. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il est abusif de dire que le paysage aurait été inventé deux fois de façon indépendante. Il s'agit, à mon sens, plutôt d'une coïncidence fortuite dans le choix des éléments représentés et dans la manière générale de dépeindre l'assemblage de ces éléments, lesquels obéissent à des intentions figuratives sans commune mesure et qui révèlent des modalités extrêmement différentes de prêter des qualités aux objets du monde. À présent, revenons à la question d'une éventuelle esthétique paysagère de l'Antiquité. C'est une question qui a été très débattue et que l'on peut reprendre brièvement en revenant aux quatre critères que Augustin Berg a proposés. Il vaut mieux laisser de côté, pour la Grèce en tout cas, le premier critère, celui des jardins d'agrément, car si leur existence ne fait absolument aucun doute à Rome, on pourrait débattre à l'infini pour savoir si les jardins botaniques que les savants et les philosophes se ménagent dans leur maison en Grèce à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ correspondent ou non à la définition ordinaire d'un jardin d'agrément. Pour ce qui est des trois autres critères, les représentations littéraires et picturales et un terme pour désigner le paysage, les avis diffèrent. Albert Doza, par exemple, dans son livre de 1914, « Le sentiment de la nature et son expression artistique », dénie aux Grecs toute sensibilité paysagère. « De prime abord, écrit-il, le sentiment de la nature paraît absent de la littérature grecque. On en chercherait à peu près en vain des vestiges chez les prosateurs et chez les poètes bucoliques eux-mêmes. Lorsqu'on relit, par exemple, Théocrite, à ce point de vue, on est frappé par l'indigence des descriptions lâches, flottantes, où un paysage flou est à peine indiqué en quelques lignes. Mais comme le fait remarquer Alain Roger, quelques lignes peuvent parfois suffire à décrire, ou plutôt à circonscrire, un véritable paysage. Par exemple, dans les Thalysies de Théocrite, un texte qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, je cite « Au-dessus de nous, nombre de peupliers et d'ormes frissonnaient et inclinaient leurs feuilles vers nos têtes. Tout près, une eau sacrée tombait en murmurant d'un antre consacré aux nymphes. Contre les branches ombreuses, les cigales, brûlées par le soleil, se donnaient grand-peine à babiller. La grenouille verte, au loin, faisait entendre son cri dans les fourrés de ronces épineuses. Les alouettes chantaient et les chardonneraient. La tourterelle gémissait, les abeilles jaunes d'or voletaient à l'entour des fontaines, tout exhalait l'odeur de la belle saison opulente, l'odeur de la saison des fruits. » Donc c'est un paysage qui est à la fois visuel, mais aussi un paysage sonore, un paysage olfactif, c'est un paysage total. Mais pour ce qui est des représentations picturales, en revanche, on ne peut que constater leur absence en Grèce, même si l'on a voulu voir dans certaines figures de vasatiques une préfiguration de peinture paysagère. La situation à Rome, en revanche, est très nettement différente. S'y combine un art des jardins d'agrément extrêmement raffiné, une poésie bucolique, il est vrai, assez elliptique, comme celle de Virgile, qui évoque les paysages par allusion plutôt que de façon descriptive, et une peinture de paysage tout à fait authentique, mais qui reste, semble-t-il, un genre très mineur, je reviendrai sur les raisons pour lesquelles c'est un genre mineur, et dont ne subsistent en plus pas beaucoup de témoignages matériels, de vestiges, de témoins matériels, en dehors de quelques mosaïques et des célèbres fresques pompéiennes du musée archéologique de Naples. En voici deux exemples. La maison des Pygmées, il faut noter que les Pygmées étaient un motif classique dans ces fresques de paysage. C'était une façon plaisante, en quelque sorte, et amusante de décrire des modes de vie. L'autre est aussi un grand classique. Et alors, les différents éléments sont toujours les mêmes. Il y a toujours une sorte de petit temple ou de petit oratoire, une colonne sacrée, etc. Donc, c'est un paysage qui est très conventionnel. Cette mosaïque du Nil correspond alors à une description plus générale, géographique, pourrait-on dire, des paysages du Nil. Et le souci d'exactitude et de précision y est tout à fait notable. Par ailleurs, donc, la peinture de paysage existe, cela ne fait aucun doute. On pourrait même suivre Alain Roger lorsque choisit de traduire, pour le terme de paysage, il existerait en latin, lorsqu'il choisit de traduire dans un passage de l'Histoire naturelle où Pline l'Ancien évoque les fresques du peintre Studius, l'expression « topiaria opera » par des genres de paysages. Je cite le passage. « Studius, donc, inaugura un genre ravissant de décoration murale constitué de villas, portiques et divers genres de paysages, ac topiaria opera, bois sacrés et forêts, collines, piscines, fosses, fleuves, plages, tout ce que chacun peut désirer. » Bref, on pourra peut-être admettre que les Romains de l'Empire ont développé une esthétique paysagère si l'on adopte, pour définir celle-ci, ces quatre critères d'Augustin Beck auxquels j'ai déjà fait référence, mais je crois que cela ne nous avancerait guère. Car dans ce cas de la peinture de paysage antique, comme dans celui de la peinture chinoise, la représentation d'environnement typique dépeint avec un souci évident de fidélité n'a aucunement pour résultat de figurer une mise à distance du monde physique qui serait désormais conçu comme un espace homogène, digne d'être décrit pour lui-même, tel que cela va se passer dans la peinture de paysage au XVe siècle. À Rome, en effet, le paysage, c'est d'abord un ornement, un assemblage plaisant de petits détails placés en marge de la grande peinture. La grande peinture, c'est celle des histoires, des détails qui sont traités de façon indépendante, mais à la manière d'un décor. Une certaine tradition, d'ailleurs, a considéré de façon analogue le réalisme des écoles françaises et flamandes au XVe siècle. Par exemple, dans son Alain Méraud, dans son Histoire de la peinture moderne de paysage, commente une conférence que Constable a donnée sur l'histoire du paysage. Alors, Constable l'aborde, cette question, en peintre, évidemment, plus qu'en historien, et Constable ne manifeste que du dédain pour le prosaïsme des artistes du Nord et la bassesse des misérables objets, c'est son expression, ceux devant lesquels nous nous extasions par la finesse et la précision à la fois de leur rendu et de leur organisation dans l'espace, par la bassesse des misérables objets introduits dans leur tableau d'histoire, qui sont pour lui guère différents au fond de ce qu'il appelle les arabesques de l'art paysager romain. Donc ce n'est pas des choses qui sont à prendre véritablement en considération. Dans l'esprit de Constable, ceci contraste avec le sens de la composition, avec la grandeur, avec la puissance d'expression des Italiens pour qui le paysage est avant tout une orchestration de la scène sacrée. Pline l'Ancien, pour revenir à lui, lorsqu'il évoque dans son histoire naturelle ces détails qui agrémentaient les sujets d'histoire, nous donne une précision intéressante. De Protogène, un peintre donc, peignant au propylée d'Athènes, il écrit, je cite Pline, « Il ajouta de petits vaisseaux de guerre dans les compositions que les peintres appellent hors d'œuvre. » Alors, on traduit « hors d'œuvre », c'est le terme grec « parergia », et c'est une expression qui a été en usage chez les auteurs de la Renaissance pour désigner, avec une certaine condescendance, la peinture de paysage. Le hors-d'œuvre, c'est ce qui est évidemment à la périphérie de l'œuvre, ce qui est à côté, ce qui est en marge de l'histoire principale et qui l'enjolive par des détails agréables à regarder. Blaise de Vigenère définit le terme ainsi en 1578 en marge d'une traduction de Philostrate. Je cite Blaise de Vigenère, « Parmi les autres tableaux d'importance, ainsi que nous avons déjà dit en un autre endroit, Philostrate a de coutume d'entremêler quelquefois de petites plaisanteries ou joyeusetés, où il s'égaye comme pour une recréation du sujet principal, ni plus ni moins que les peintres, parmi leur ouvrage, font des perspectives, figures d'arbrisseaux, de bestions, vieilles ruines et démolitions d'édifices, montagnes et vallées, ensemble tels autres accessoires et incidents, qui servent pour enrichir et donner grâce à leur besogne et remplir ce qui, sans cela, demeurerait inutilement dénué et vide, en danger d'offenser la vue. Les Grecs les appellent parerga, ou ajoutement superflu, outre ce qui fait besoin. C'est donc des enjolivures, ça destiné à combler en quelque sorte les vides de la scène principale. Autrement dit, le paysage, comme parerga, ou parergue, pour reprendre l'expression francisée, tel que Nicolas Poussin l'utilise encore un siècle plus tard. Le paysage comme parerga, c'est une ornementation plutôt frivole, même si elle peut témoigner, et personne n'en doute, d'une grande habileté. Pline encore, lorsqu'il parle de ce même Studius, déjà évoqué à propos de la traduction d'Opera Topiaria, nous dit qu'il fut un spécialiste des vues de cités, je cite Pline, de cités en bord de mer, d'aspect fort agréable, représentées sur des parois à l'air libre, donc il s'agit en fait de galeries, de loggia, et cela, ajoute-t-il, pour un prix minime. Donc le paysage, à Rome, c'est un genre en soi, sans doute, mais un genre vraiment mineur, mal payé, un art décoratif, venant en marge ou en surcroît des grands sujets, une attitude en fait condescendante qui va perdurer chez les artistes italiens, lesquels, on le sait, confient volontiers aux peintres flamands le soin de représenter les paysages qui ornent l'arrière-plan de leurs tableaux, dont eux se réservent la scène centrale, qui est en général un grand événement tiré de l'histoire sacrée. C'était même une occupation classique des peintres flamands qui faisaient le voyage en Italie pour peindre ces paysages de fond de tableau. C'est donc un paradoxe qu'un genre mineur, relevant dans l'Antiquité romaine de l'ornementation et en quelque sorte ce que nous appellerions maintenant de la décoration d'intérieur, peut considérer à ses débuts, c'est le moins qu'on puisse dire, par les peintres de la Renaissance italienne, est connu en Europe du Nord une mutation telle que celle-ci puisse être à bon droit vue comme le symptôme d'une nouvelle façon d'appréhender des qualités du monde. Je crois que l'invention de la vision panoramique y est pour beaucoup. Par contraste avec le cube bien délimité et parfaitement construit à la manière d'une scène de théâtre dont les peintres italiens trouvent l'inspiration chez Vitruve. Le paysage panoramique, c'est une spécialité du Nord. Dans La pêche miraculeuse de Conrad Witz, par exemple, Witz se situe au cœur d'une impressionnante vue du lac Léman et des sommets qui l'entourent et qui a la réputation d'être le premier paysage réel associé à un sujet religieux dans la peinture occidentale, si l'on accepte certaines aquarelles peut-être de Dürer. Ici, mieux encore que dans le paysage qui constitue l'arrière-plan de la Vierge du chancelier Rollin, le regard plonge vers l'infini grâce à une ampleur de champ considérable, tant en profondeur qu'en largeur, mais une profondeur qui est bien maîtrisée. Et en même temps, le regard a le loisir de s'attarder, s'il le souhaite, sur une multitude de détails réalistes, reprenant l'un après l'autre des constructions, des animaux, des personnages. Et la figuration d'un morceau de pays saisi depuis un point de vue particulier tend alors, en quelque sorte, vers une description exhaustive du monde et de ses singularités, pourtant ramenées à une commune mesure, une description qui, comme l'écrit Alain Méraud, dont j'évoquais tout à l'heure la monographie sur le paysage dans la peinture moderne, pourrait, je le cite, « pourrait être infiniment continuée, les côtés du tableau n'ayant pas ici de rôle constructif, mais matérialisant seulement le découpage arbitraire que le peintre effectue dans la profusion du visible. » Donc on est bien entré ici dans le monde naturaliste, celui où règne l'espace homogène et infini de la res extensa. Revenons à présent, en guise de petite synthèse conclusive, sur les traits saillants de la figuration naturaliste telle qu'elle commence à se mettre en place au XVe siècle. Le naturalisme, on l'a vu, réserve l'intériorité aux seuls humains. L'accent est donc mis sur la peinture de l'âme, chez les hommes et chez les femmes. Et comme cette intériorité est à la fois une propriété générale des humains et ce qui singularise chacun d'entre eux, c'est par le biais de la particularisation des visages, notamment des regards, que cet effet sera obtenu. L'individuation des sujets humains, dont on a vu les premières manifestations en Flandre au début du XVe siècle, peut être observée un peu plus tard en Italie, dans des portraits de Piero della Francesca, j'en ai montré deux lors d'une leçon précédente, ou bien dans la célèbre fresque de Mantegna ornant le palais ducal de Mantoue. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais c'est toute la famille du duc de Mantoue qui est représentée, et chaque personnage est doté à l'évidence d'une grande singularité individuelle. Et cette façon de représenter l'individualité humaine, elle tranche comme une nouveauté radicale par rapport au schème figuratif de l'époque médiévale, typique d'une ontologie analogique, et dans laquelle, par conséquent, les intériorités humaines demeurent très peu affirmées. Les personnages de l'iconographie médiévale, qu'ils relèvent de l'histoire sacrée ou de l'anecdote profane, restent conformes à des types correspondant soit à des catégories socio-historiques, le clerc, le chevalier, le marchand, le mendiant, soit aux conventions figuratives d'une individualité représentée par quelques attributs toujours identiques, la Vierge, le Christ, tel ou tel apôtre, tel ou tel saint. On a vu, c'est la caractéristique du portrait typologique, pour reprendre l'expression de Grabar. Ce sont des figurants, donc, des figurants qui illustrent des paraboles, et à ce titre, ils n'ont guère besoin d'exhiber une intériorité particularisée. Le passage à une représentation réaliste des individualités humaines ne vient pas d'un soudain perfectionnement technique qui aurait permis de mieux exprimer la ressemblance, mais bien plutôt d'un besoin nouvellement ressenti de rendre manifeste dans une image ce qu'une âme humaine a de complètement singulier, de complètement irréductible à ce qui l'environne. Quant à la mise en évidence des continuités physiques propres au naturalisme, elle exige que les existants soient dépeints en grand nombre et avec des techniques semblables au sein d'un espace homogène où chacun d'entre eux occupe une position qui peut être rationnellement connectée à celle des autres. D'où le fait, que j'ai souvent rappelé, que le paysage, mais aussi la nature morte, sont des expressions emblématiques de la peinture moderne et ce qui lui donne, en matière de contenu, en tout cas, sa parfaite nouveauté. Cette célébration du quotidien, elle est beaucoup plus qu'une découverte tardive de la beauté des choses ordinaires. En se mettant à figurer des rivières, des lacs, des montagnes, des maisons, des barques, des pêcheurs, comme dans cette peinture de Witz, des corbeilles de fruits, des bouquets de fleurs, la peinture moderne donne soudain une expression ostensible au fait que toutes les choses du monde sont soumises aux mêmes conditions matérielles, qu'elles sont commensurables entre elles et à l'homme. Et c'est aussi, du point de vue technique cette fois, ce que l'invention de la perspective monofocale rend parfaitement manifeste. Comme le rappelle Daniel Arras dans son livre Histoire de peinture, au début, on emploie le terme, pour désigner la perspective, le terme commensuratio. C'est un terme qui est utilisé pour désigner la perspective en peinture par Alberti, par exemple, dans le De Pictura, ou par Piero della Francesca dans le De Prospectiva Pingendi. Qu'est-ce que c'est que la commensuratio ? Bien, c'est la construction de proportions harmonieuses à l'intérieur de la représentation en fonction de la distance mesurée, évidemment, par rapport au spectateur regardant le centre du tableau. Cette idée que la contiguïté des choses s'organise dans un rapport réglé n'est pas propre à l'art de cette époque et il intervient dans toutes sortes d'autres pratiques, car en même temps que les peintres rendent les choses commensurables dans l'espace de la peinture, on mesure cet espace dans les cartes de géographie et l'on mesure le temps avec l'horloge mécanique. Brunelleschi, qui inventa la perspective, était aussi un grand fabricant d'horloges. Et Florence, où il officiait, était alors la capitale de la cartographie. Cette commensurabilité générale signifiait que le monde était devenu géométrisable, c'est-à-dire que l'homme avait su en construire une représentation vraie de son point de vue. Et le paradoxe, donc, du naturalisme récent, c'est ainsi que cette opération de mise en continuité des physicalités s'opère dans la peinture à partir d'une perspective subjective arbitrairement posée, celle du peintre, car d'autres techniques de rendu de la perspective, je l'ai dit tout à l'heure, tout aussi vraisemblables que la perspective monofocale centrée au milieu du tableau, ont été expérimentées à l'époque, avant que celle inventée par Brunelleschi et théorisée par Alberti ne finisse par s'imposer avec un tel succès qu'elle nous paraît, à nous, à présent, éduquée dans cette vision perspective, presque comme la seule façon naturelle de figurer la proportion des objets en fonction de la profondeur. Autrement dit, le naturalisme naissant s'est livré à un extraordinaire tour de passe-passe, lorsque, en s'incorporant dans des images, il est parvenu à rendre finalement quasiment invisible le mécanisme de la subjectivation des objectivités qu'il figure. C'est ce qu'a très bien montré Panofsky dans son essai sur la perspective. Et ce rapport ambigu entre l'objectif et le subjectif, on peut dire qu'il est caractéristique et même constitutif, je dirais, du naturalisme. Et c'est dans une large mesure cette tension entre l'objectif et le subjectif qui assure son dynamisme historique. En effet, si les droits de l'intériorité s'affirment au début de façon éclatante, songeons à ces tableaux de Campin, à ces portraits de Campin et de Van Eyck que j'ai montrés, ou un peu plus tard, ailleurs que dans la peinture, dans la littérature humaniste ou dans le cogito cartésien, ils finissent ces droits de l'intériorité peu à peu, au cours des siècles qui suivent, par rentrer en contradiction avec l'universalité des principes de la physicalité. Les lois de la nature ne peuvent laisser, en somme, hors de leur juridiction, cette espèce de résidu immatériel que j'ai appelé matérialité, et intériorité, qu'on appelle esprit si on veut, que cet esprit soit individuel ou collectif. Et le mouvement s'est accéléré, en fait, dans les dernières décennies du XXe siècle. La conscience, la subjectivité, les dilemmes moraux, les particularismes culturels tendent de plus en plus à être expliqués comme des propriétés émergentes de fonctions biologiques ou comme des conséquences adaptatives, comme le produit de mécanismes neuraux. Or, là encore, ce qui est intéressant de constater, c'est que les images ont anticipé sur l'expression, en quelque sorte, propositionnelle de cette tendance à la physicalisation de l'intériorité. Elles l'ont fait à travers un processus d'immanentisation progressive qui s'est déroulé à partir du XVIe siècle jusqu'à présent. En quoi consiste-t-il ? Bien, la conception chrétienne de l'image, qui voit dans celle-ci une empreinte et un succédané d'un modèle divin transcendant et irreprésentable, subit une inflexion à la Renaissance, en ce que le modèle de perfection commence à être, en quelque sorte, rapatrié dans l'intériorité subjective humaine. Ce modèle de perfection devient alors immanent. Il n'est plus renvoyé à une transcendance extérieure. Et c'est ce que, en fait, nous avons examiné lors des dernières leçons regardant la construction de l'intériorité dans le portrait et aujourd'hui dans la construction des contiguïtés physiques dans le paysage. Mais cet idéal de l'harmonie intérieure finit par perdre sa fonction structurante avec ce qu'on pourrait appeler l'invention de l'objectivité, qui va détrôner, au début du XIXe siècle, l'injonction de fidélité à la nature, qui est caractéristique, par exemple, d'une peinture comme celle de Witz et qui va continuer encore jusqu'au XVIIIe siècle. Ce passage de l'injonction de fidélité à la nature à la construction de l'objectivité, il s'opère d'abord dans les images scientifiques, naturalistes, anatomiques, de description d'expérience, etc., mais aussi dans la photographie et dans l'art moderne à partir de du dernier quart du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? La physicalité devient autoréférente et les images n'en sont plus une représentation, mais une monstration. Et c'est cette mutation de la figuration naturaliste que j'examinerai l'année prochaine, au début du cours, avant d'aborder, pour terminer, les différents aspects de la figuration analogiste, ce qui me permettra aussi, en ne concluant pas cette série de cours sur la figuration, avec la figuration naturaliste, de bien montrer qu'il n'y a pas un progrès qui irait d'une forme de figuration à une autre, mais que l'analogisme est un point de conclusion aussi logique pour cette pérégrination que le serait la figuration naturaliste ou la figuration totémique auquel j'ai consacré les premiers cours de cette année. Je vous remercie de votre fidélité.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.